Et cet après-midi, donc, au menu de notre club des têtes au carré, il y a certes des morpions, mais pas seulement. Il y aura également le sommeil connecté et les métiers de demain. Et je vous présente mes invités dans un instant. Et puis, donc, un ouragan d'une ampleur inégalée pour la saison dans l'océan Atlantique. C'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Oui, bonjour Mathieu. Le petit Alex a pris du galon. Il est passé dans la nuit de mercredi à jeudi du statut de tempête tropicale à ouragan. Un phénomène très rare pour un mois de janvier. On y revient dans un instant avec vos questions sur Twitter.
Voilà, phénomène qui n'avait pas été observé depuis 80 ans. Stéphanie Texier réalise ce club des têtes au carré, préparé aujourd'hui par Emmanuel Fournier avec Carole Sauvage.
Les têtes au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Des morpions, un bon sommeil et les métiers de demain dans notre club. Et bienvenue à mes invités Anne-Caroline Poco, Marc Giraud et Quentin Soulet. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue Anne-Caroline Poco. Bientôt, des aspironauticiens vont nettoyer les déchets en orbite. Les prédicticiens utiliseront des algorithmes pour prévoir des événements, sans oublier les artibioteurs qui, eux, vont fabriquer des objets organiques. Ce sont quelques-uns des métiers du futur que vous avez imaginés?
Je me suis appuyée sur les innovations existantes pour pouvoir les imaginer. Après, il faut aussi inventer des mots. Puisqu'il y a une nouvelle réalité, c'est logique qu'on invente des nouveaux mots.
Ouais, donc vous avez créé votre propre dico. Hein.
C'est un dico aussi collaboratif.
Ouais.
C'est-à-dire, j'ai été aidée tout de même avec des participants des ateliers ou sur Twitter.
Ouais, peut-être que l'un de ces mots un jour va entrer dans l'un des dicos officiels de la langue française.
Le mot, il n'y a rien de plus démocratique. Alors, c'est peut-être pas l'objectif numéro un. Par contre, l'objectif numéro un, c'est de pouvoir mettre de la poésie dans l'emploi et puis peut-être aussi de pas former les jeunes au métier d'hier et de leur donner envie de construire leur propre métier.
On va en parler bien sûr avec vous. Quentin Soulet, vous avez-vous inventé un bandeau connecté permettant d'améliorer la qualité du sommeil? Alors personnellement, l'idée de dormir, moi avec un bandeau sur le front, ça m'empêche déjà de dormir. C'est pas un peu intrusif comme objet?
Alors, tout a été fait pour que ce soit pas intrusif. Le principe est qu'on va réussir à mesurer votre activité cérébrale et à augmenter la durée du sommeil profond pendant votre sommeil, donc la durée pendant laquelle vous allez mieux récupérer. Donc le but est de vous faire mieux dormir.
C'est ça, avec ce bandeau donc sur le front, mais il faudrait le porter comme ça toutes les nuits, logiquement, pour que ça fonctionne bien, ou seulement de temps en temps?
Alors, toutes les nuits, ça dépend, c'est-à-dire qu'on mesure un impact dès le lendemain sur les capacités. Donc vous pouvez le porter de manière régulière ou occasionnelle.
On fera connaissance donc avec votre invention dans le cadre de notre partenariat avec TEDx Paris. Marc Giraud, sale temps pour les morpions, hein, apparemment.
Oui.
Hein, c'est une espèce en voie de disparition, la faute à...
À la déforestation intime.
À l'épilation.
Oui, absolument. Vous savez que plus de 80% des étudiants américains sont épilés, plus ou moins partiellement.
Allez, les jeunes plus que les adultes?
Oui, c'est une mode.
D'accord.
Donc, pour les morpions, c'est pas bon.
Oui.
En revanche, les poux, ils aiment les selfies.
Oui,
parce que
ça.
Pour sourire devant l'appareil, on rapproche nos chevelures.
Hein.
Et voilà, les poux déménagent.
Donc là aussi, il y a de nouveaux phénomènes qui
absolument.
Se créent. On pourrait peut-être inventer là aussi des néologismes avec vos histoires de parasites.
Oui.
Qu'on va découvrir avec vous dans un instant. Extrait d'un livre, La vie rêvée des Morpion, aux éditions de Lachaud et Nestlé. Voilà donc pour les sujets de notre club. Vous nous rejoignez bien sûr avec vos messages et vos questions sur le site de La Tête au Carré. Un ouragan au mois de janvier dans l'Atlantique, c'est le sujet de notre une aujourd'hui.
Un événement exceptionnel a eu lieu mercredi alors que la tempête tropicale Alex s'est formée dans l'océan Atlantique. Il s'agit de la quatrième fois dans l'histoire météo qu'une tempête nommée se développe en janvier. Les trois autres systèmes tropicaux aussi actifs remontent à 1938, 1978 et 1951. La saison des ouragans a officiellement lieu du 1er juin au 30 novembre.
Voilà, et on parle donc de cet ouragan Alex dans le monde entier. Et pour en discuter, en savoir un petit peu plus sur ce phénomène extrêmement rare, nous sommes avec vous en ligne, Fabrice Chauvin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre National de Recherche Météorologique de Météo France à Toulouse. Alors pourquoi est-ce que c'est si rare de voir un cyclone se former en janvier dans l'océan Atlantique?
Ah, alors en fait, la saison classique, oui, c'est plutôt de mai à octobre ou novembre. Donc en janvier, tout simplement parce que les conditions de formation des cyclones ne sont pas réunies. Pour qu'un cyclone se forme, il faut un certain nombre de conditions qui vont se combiner. Donc il faut un tourbillon qui se crée. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui est...
saisonnier.
Oui, ça peut arriver à peu près. Oui, voilà, exactement. En général, il faut des eaux chaudes, mais comme on le dit assez souvent, il n'y a pas de seuil physique. On entend souvent le seuil physique de 26 degrés pour former des cyclones. En fait, ce seuil physique de 26 degrés traduit surtout le déséquilibre entre la surface et l'altitude.
D'accord, donc la différence de température entre l'eau et l'air.
Instable. Voilà, et en fait l'instabilité se mesure en regardant la différence entre les eaux de surface et les eaux en haut de ce qu'on appelle la troposphère, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres d'altitude. Donc là il se trouve que sur le cyclone Alex, on a des eaux d'à peu près 20 degrés, hein, donc c'est nettement en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir, mais si par ailleurs en altitude la température est très basse, eh bien on peut avoir des conditions de déclenchement. Ensuite, il faut des conditions dynamiques qui soient favorables, c'est-à-dire il faut pas qu'il y ait de gros changements avec l'altitude du vent, ce qu'on appelle le cisaillement de vent. Quand l'atmosphère est cisaillée, c'est pas très propice pour le déclenchement des cyclones. Et ensuite, il faut de l'humidité dans la moyenne troposphère, etc. Et donc, en général, tous ces paramètres, pour qu'ils se combinent, pour que ces paramètres se combinent, il faut se trouver dans la saison, dans une saison d'été élargie, de mai à novembre.
Est-ce que la présence d'El Niño dans le Pacifique peut expliquer cette anomalie que représente Alex aujourd'hui?
Alors, ben non, justement, parce que normalement, quand un Niño a lieu dans le Pacifique, alors ça a des conséquences sur l'activité cyclonique dans le Pacifique, comme on a pu le voir au cours de l'année 2015, hein, qui est une année exceptionnelle sur l'océan Pacifique. Mais en contrepartie, normalement, le Niño a plutôt tendance à désactiver l'activité sur l'Atlantique pour plusieurs raisons, notamment celle d'engendrer des cisaillements forts au-dessus de l'océan Atlantique. Donc, même le Niño ne peut pas expliquer ce comportement.
Oui. Fabrice Chauvin, quelle différence entre ouragan, typhon, cyclone? On l'a déjà dit dans l'émission, mais c'est bon de le rappeler quand même.
Oui, il n'y en a pas en fait, c'est juste une question de localisation. Hein. On appelle ouragan, on donne le nom à un cyclone tropical, on lui donne le nom d'ouragan dans l'Atlantique et dans le Pacifique Est, on lui donne le nom de typhon dans le Pacifique Ouest, et puis sinon on lui donne le nom de cyclone tropical classiquement.
Ouais. Bah, c'est la même chose, mais enfin c'est quand même très localisé hein, apparemment. Hein.
Oui.
Par rapport au terme qu'on emploie, c'est-à-dire qu'un mot signifie quand même une région précise du globe.
Ah oui, c'est ça, oui, effectivement. Mais le phénomène en lui-même, c'est le même. Hein. C'est-à-dire,
Est-ce qu'à part sa date d'apparition, Alex ressemble aux autres cyclones qu'on peut avoir dans l'Atlantique?
Alors, c'est un petit peu tôt pour répondre à cette question, parce que là, moi, je n'ai accès pour l'instant qu'à aux prévisions d'évolution du système. Mais alors, effectivement, il a quand même une trajectoire très sud-nord. Et si vous regardez les prévisions de trajectoire, c'est prévu qu'il continue d'aller vraiment énormément vers le nord, et ensuite de basculer à l'ouest. Alors ça, c'est assez atypique, oui. Mais bon, après, il faut voir si ça va se passer dans la réalité.
Oui, donc c'est un phénomène là qui vous étonne vraiment beaucoup. Il y avait un précédent, mais je crois que c'était dans les années 30. On n'avait pas vu depuis un ouragan à cette période dans l'Atlantique.
Alors, j'ai pas eu le temps de regarder en détail les archives, mais effectivement, des ouragans qui se forment en janvier dans l'Atlantique, il faut remonter effectivement à 1938. On a eu des ouragans en janvier, par exemple, la dernière fois, c'était en 2005, mais ils s'étaient formés en décembre de l'année précédente. Donc, effectivement, c'est un phénomène quand même très rare. Bon, après, que ce soit fin décembre ou début janvier, la limite est un peu ténue, mais effectivement, c'est quand même un phénomène assez rare. Ouais.
Est-ce qu'il est intéressant de se poser la question de la responsabilité du dérèglement climatique dans l'apparition de ce cyclone?
Oui, il peut être intéressant, mais alors la réponse des scientifiques que nous sommes est toujours la même, très prudente, c'est-à-dire on ne peut pas attribuer un événement particulier au changement climatique. Ce qu'on pourrait éventuellement détecter, c'est le renouvellement d'événements de ce type-là plusieurs années ou plusieurs au cours d'une décennie. Ça pourrait être un marqueur du changement climatique. En l'occurrence, quand c'est un événement isolé, c'est impossible de l'attribuer au réchauffement climatique. Et qui plus est, les conditions dans lesquelles Alex s'est formé, avec des températures de surface de 20 degrés sur l'océan, ne sont pas du tout comparables à ce qu'on pourrait attendre d'un réchauffement du climat.
Mais pourquoi c'est si difficile, au fond, de répondre à cette question sur l'avenir des cyclones dans un contexte de réchauffement ?
Alors c'est difficile parce que la problématique des cyclones tropicaux est que ce sont des phénomènes de... Alors ça, pour le grand public ça peut paraître bizarre, mais ce sont des phénomènes de petite échelle par rapport au climat. Et il faut avoir accès à des modèles dont la grille et dont la résolution est très fine. Et ce qui pour l'instant est encore loin d'être le cas de manière générale parmi tous les centres qui participent au GIEC. Et donc actuellement nous n'avons accès qu'à quelques modèles qui font des prévisions pour le futur. Mmh. Et d'autre part, le phénomène cyclonique est observé depuis plus de 150 ans. Par contre, il est observé correctement depuis une quarantaine d'années avec les satellites. Avant, on ne sait pas dénombrer, on n'est pas sûr que le nombre de cyclones qu'on a compté au cours du temps soit le bon, puisqu'on pouvait très bien passer à côté des cyclones s'ils ne touchaient pas terre ou s'ils ne rencontraient pas un navire.
Merci beaucoup Fabrice Chauvin pour vos explications. Prie. Alex qui se trouve donc en ce moment pas loin des îles portugaises de l'archipel des Açores, apparemment, qui est en alerte avec un vent qui pourrait souffler jusqu'à 160 km/h. Laetitia Gaillet nous le disait tout à l'heure, avec des creux en mer qui pourraient atteindre 18 mètres. Merci beaucoup Fabrice Chauvin pour vos explications. Et puis bon week-end à vous Axel.
Merci Mathieu Alain.
Pour lundi pour la une bien sûr. Allez en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. L'homme a peuplé l'Arctique il y a 45 000 ans, soit 10 000 ans plus tôt qu'on ne l'estimait. Selon des chercheurs russes qui ont analysé une carcasse gelée d'un mammouth laineux mâle trouvé en 2012 dans le centre de la Sibérie arctique. Le squelette présentait en effet des signes de blessures inhabituelles qui ont été très probablement causées par des pointes de lance très aiguisées. La datation au radiocarbone d'un des tibias de l'animal et des matériaux qui se trouvaient aux alentours les ont datés donc à 45 000 ans et confirment une première trace de l'homme à cette époque. Les chimpanzés font confiance à leurs amis, c'est ce que révèlent des chercheurs allemands qui ont réalisé une expérience étonnante pour le démontrer. Un premier primate pouvait soit choisir d'attirer vers lui une nourriture banale, soit se diriger vers un autre chimpanzé, un mets, cette fois-ci de choix, en espérant que ce dernier partage le festin avec lui. Eh bien, les résultats sont sans appel. Les cobayes avaient largement tendance à privilégier le partage lorsqu'ils interagissaient avec un ami, prenant ainsi le risque de ne rien obtenir. Contrairement à ce que l'on pensait, la confiance n'est donc pas le propre de l'homme et découle, selon les chercheurs, d'un processus évolutif. Et puis, pour finir en vidéo, un merveilleux ballet aérien de drone sur la 5e symphonie de Beethoven. La performance a eu lieu en novembre dernier pendant qu'un orchestre jouait. Une centaine de drones se sont envolés et illuminés au rythme de la musique. Une démonstration impressionnante et l'occasion également pour les pilotes de battre le record mondial du nombre de drones volant simultanément. C'était en novembre, mais la vidéo est à voir en ce moment sur le Facebook et le Twitter de la Tête au Carré. Et c'est le club dans un instant.
I'm just
Take Me Out, Franz Ferdinand.
Le club des têtes au carré. En partenariat avec TEDx Paris. Sur France Inter.
Et le club, donc, comme tous les vendredis avec mes invités cet après-midi pour parler morpion, qualité de sommeil, métier de demain avec Anne-Caroline Poco. Vous vous présentez comme écrivain prospectiviste. Hein, vous êtes spécialisée dans la création d'outils pour réfléchir ensemble à demain,
hein,
c'est ça?
Oui, ça le fait. Hein.
Oui, c'est vrai. Et vous venez de publier le dico des métiers de demain.
Et je travaille maintenant sur le dico du futur de l'amour.
Ça y est, vous êtes déjà dedans. Oui. Hein. Sur le même principe, on va l'expliquer. C'est aux éditions Les Propulseurs. Je ne connaissais pas ces éditions. De quoi s'agit-il?
C'est une édition qui propulse.
Tout simplement.
Oui, ouais, qui propulse le futur.
On peut trouver vos livres en librairie ou ça rentre tout sur le net?
Uniquement sur le net pour éviter le système traditionnel de l'édition.
Marc Giraud, vous êtes naturaliste de terrain, journaliste et écrivain spécialisé en zoologie. Alors vous, vous êtes dans le système traditionnel de l'édition.
Ah hein. Oui, moi je suis contre Amazon et tout ça, mais pour d'autres raisons, ouais. Pour les réseaux commerciaux, voilà.
Delachaux et Nestlé qui publient donc avec l'illustrateur Roland Garrigue La vie rêvée des morpions et autres histoires de parasites. Et puis Quentin Soulet, c'est avec vous qu'on va commencer ce club. Vous êtes directeur scientifique, cofondateur de DREAM. Ça s'écrit DR2EM. Hein. C'est une entreprise de neurotechnologie avec laquelle vous êtes en train de développer un bandeau connecté actif permettant d'améliorer la qualité du sommeil. Vous étiez le 6 juin dernier sur la scène du TEDx Paris pour présenter votre intervention au public avec votre camarade Hugo Mercier. Et c'est d'ailleurs lui qu'on entend dans cet extrait.
L'idée vraiment qu'on a derrière DREAM, c'est de pouvoir améliorer de manière efficace la qualité de sommeil, pouvoir évidemment améliorer les performances pendant la journée, mais aussi à plus long terme, contrer les effets néfastes d'un mauvais sommeil. Et ce n'est qu'un début. Donc si nous faisons un pas en avant, d'ici 5 ans, on aura constitué la première base de données d'EEG massive au monde. Donc par exemple, on aura accès à des enregistrements de millions d'utilisateurs sur plusieurs centaines de nuits. On aura ce premier jeu de données-là. Un deuxième jeu de données consistera en des données qualifiées provenant des hôpitaux ou des laboratoires. Sur des personnes, par exemple, atteintes d'Alzheimer ou de Parkinson. Et bien que ces deux jeux de données-là, et grâce aux outils issus des big data, on pourra les croiser et on espère pouvoir en sortir un outil puissant, précis, efficace, de prédiction des pathologies. Merci.
Merci. Voilà, Quentin Soulet, vous êtes très ambitieux hein, avec votre camarade, parce qu'on l'a compris là dans cet extrait, c'est pas seulement bien nous faire dormir, il y a derrière tout ça quand même des histoires de données qu'on va pouvoir s'échanger pour avoir des informations, entre autres, sur les possibles pathologies.
Alors tout à fait, mais c'est pas la première application, c'était la conclusion du talk, donc c'est évidemment une ouverture sur ce qu'on pourra faire dans l'avenir. C'est au-delà de l'application dont on pourra parler probablement plus tard. L'idée générale de la boîte, alors la boîte s'appelle Rhizome et pas Dream, on a changé. Rhizome est devenu le nom de la boîte et Dream le nom du produit.
D'accord, très bien.
Donc l'idée générale de Rhizome, c'est les neurotechnologies, donc c'est-à-dire le croisement entre les neurosciences et les technologies avancées, que ça soit dans le domaine, comme Hugo l'a dit, des big data, donc du traitement, de l'algorithmie, mais aussi du hardware, donc que ça soit de l'électronique.
Mais il faut nous traduire hein, tous ces mots-là. Hein, parce que...
Hardware?
Oui.
Hardware, c'est par opposition au software qu'est le logiciel, c'est ce qui est dur et qu'on peut toucher. Donc, par exemple, une carte électronique, un capteur ou ce genre de choses. Et donc, les dernières évolutions en termes de capteurs d'électronique ou de logiciel et d'algorithmes permettent aujourd'hui de mieux comprendre l'activité du cerveau et on a de plus en plus ce croisement entre le milieu académique des neurosciences et le milieu de l'ingénierie pour en sortir des applications. Donc
là, concrètement, un objet qui serait un bandeau. Hein.
Tout à fait, exactement. Donc, qui vient de travaux en neurosciences. Enfin, le principe de simulation en travaux en neurosciences.
Ouais.
Et on a pu le transformer en objet grand public. Et d'ailleurs, améliorer aussi ce qui a été fait d'un point de vue traitement de signal et algorithmie par de l'ingénierie et du design.
Donc, le but, évidemment, c'est de pouvoir nous faire bien dormir. On l'a compris tout à l'heure avec ce bandeau par conduction osseuse. C'est ça, hein?
Oui. Alors, la conduction osseuse, c'est le moyen de la stimulation. C'est-à-dire qu'on peut peut-être revenir un peu sur le principe avant de parler de la conduction osseuse. C'est-à-dire que le principe général du bandeau, c'est qu'on va avoir un bandeau, donc confortable, qu'on va porter pendant qu'on va se coucher, qui va mesurer votre activité cérébrale et qui va envoyer des petites stimulations audio, donc des sons, à des moments très précis qui vont permettre de favoriser un rythme, qui s'appelle le rythme lent, qui est caractéristique du sommeil profond. Donc en fait, pour être simple, c'est un bandeau qui va vous augmenter la durée et l'efficacité de votre sommeil profond.
Donc on va le mettre dans des conditions de sommeil maximales.
Tout à fait. En fait, il y a différentes phases. On parle souvent des cycles de sommeil qui durent 1h30. Et en fait, chaque cycle de sommeil a différentes phases de sommeil. Mmh. Et les phases de sommeil ont des rôles, déjà ont une activité cérébrale particulière, et ont aussi des rôles physiologiques particuliers. Et donc les phases de sommeil les plus importantes, c'est le sommeil paradoxal, la partie du sommeil pendant laquelle on rêve, qui arrive principalement en fin de nuit, et le sommeil profond, qui arrive plutôt en début de nuit. Et donc les 10 dernières années ont plutôt mis ont plutôt été concentrées sur le sommeil profond, notamment pour ses rôles dans la consolidation de la mémoire, dans la régénérescence des cellules en général, ou dans le nettoyage des tissus cérébraux. Et donc on a, et par exemple, un manque de sommeil profond va être corrélé avec des capacités plus mauvaises en journée. Et à long terme, on a par exemple, on a un papier récemment dans Nature Neuroscience qui montre que le manque de sommeil profond est corrélé avec la rétention de la bêta-amyloïde, qui est une maladie, qui est une molécule qui est liée à la maladie d'Alzheimer. Donc il y a des conséquences à court terme et à long terme d'un mauvais sommeil. Et donc, c'est-à-dire que pour les personnes qui peuvent, évidemment, il vaut mieux dormir de toute façon longtemps, et pour les personnes qui dorment peu et qui sont contraintes par leur sommeil, la qualité du sommeil est très importante.
Ouais, même alors, pour les personnes qui dorment longtemps. C'est vraiment le bandeau magique ou pas? Alors, vous l'avez testé d'abord comment? Sur l'humain directement?
Alors, on l'a testé sur nous déjà, pour commencer.
Oui. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est pour ça qu'il était presque en retard.
Oh, le cafeteur,
il a bien dormi.
Mauvais esprit, il est arrivé sur le fil juste avant l'émission.
Pile à l'heure.
Comment ça a fait pour vous?
Donc les travaux ont commencé sur des... c'est pour juste prendre la question de l'animal et de l'humain. On a des résultats sur l'animal et sur l'homme. Et on a pu commencer dès 2007, en fait, avec des simulations magnétiques à l'époque. Donc ils arrivaient à augmenter la durée du sommeil profond avec des stimulations magnétiques. Et en 2013, donc relativement récemment, on a réussi à avoir les mêmes résultats avec de l'audio synchronisé. En effet, l'audio est fait par conduction.
Sur quel animal vous avez posé un bandeau alors?
Alors c'est pas des bandeaux à ce moment-là.
Oui. C'est sur la souris que vous avez travaillé?
La souris elle rat, oui.
Oui. Donc on met pas de bandeau dans ces cas-là?
On met pas de bandeau. C'est justement un peu le problème, c'est qu'on a des outils en laboratoire qui sont plus compliqués qu'un bandeau. Et le but était d'avoir des outils plus portables et plus utilisables.
Alors, les résultats, qu'est-ce que ça donne alors concrètement? On met le bandeau et dès la première nuit, on a un sommeil beaucoup plus profond et réparateur?
On mesure très bien, nous, de notre côté, dans les données, l'augmentation de la durée du sommeil profond. Donc ça, c'est des choses qui sont visibles et indiscutables. C'est une mesure, on regarde sur le sommeil, on voit que la durée du sommeil profond est augmentée.
Est-ce que vous avez testé ça chez des insomniaques?
Alors, on ne teste volontairement pas ça chez des insomniaques, dans un premier temps. Déjà parce qu'il faut pouvoir... Le sommeil est assez individuel et dépend beaucoup de la personne. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord cibler une... On ne va pas cibler les pathologies dans un premier temps, parce que c'est des problèmes qui sont quand même assez différents. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on n'est pas un dispositif médical, donc on ne traite pas les pathologies. Et donc, on n'est pas là, encore une fois, dans un premier temps, pour contrecarrer les effets de l'insomnie. On vient améliorer la qualité et l'efficacité du sommeil pour des personnes qui ne sont pas insomniaques.
D'accord. Améliorer le sommeil, d'accord. Et ensuite, donc, on l'a compris, il y a une deuxième phase, un deuxième objectif pour vous, c'est de recueillir des données. Parce qu'on voit que vous avez des ambitions quand même, être le premier à l'échelle mondiale pour, c'est ça, avoir une espèce de banque de données du sommeil.
Alors, le premier à l'échelle mondiale, finalement, ça se fait assez rapidement parce que les bases de données EEG sont... Il n'y a pas de dispositif grand public EEG, ou en tout cas très peu. Donc les bases de données sont assez segmentées et réservées au laboratoire. La question des données est une question importante et sur laquelle, de toute façon, on fera les choses en accord avec la personne. Donc si la personne ne veut pas qu'on utilise ces données, soit pour la recherche, soit pour optimiser les stimulations qu'on va faire sur cette personne, on ne le fera pas. Et un des buts, c'est pas vraiment la question, c'est pas qu'une question de données, c'est une question de recherche plutôt au sens large. Et de pouvoir faire avancer la recherche par une meilleure compréhension du cerveau. Et un des moyens de le faire, c'est la donnée. Notre but est pas, le but à long terme n'est pas d'avoir une grande banque de données.
Anne-Caroline Poco, vous voulez réagir?
Ça m'inspire un métier.
Ah, alors lequel?
Le métier de sométicien. Alors ce serait le l'éthicien du sommeil.
Oui. Vous l'avez créé celui-là
non,
déjà?
Non, là,
vous,
là c'est maintenant.
C'est une création tête au carré, exclusivité mondiale.
Et donc en fait le principe du sométicien, c'est de pouvoir vérifier que on nous mette pas dans le cerveau des simulations cérébrales qui nous dérèglent totalement. Puis d'autre part aussi, vérifier aussi que l'abus d'enregistrement de données, ce que ça va donner. Par exemple, aujourd'hui, on voit que tous ces bandeaux, par exemple, on va plus effectivement faire une balade, on va faire 10 000 pas, ou 8 300 pas. On va plus faire un bon repas avec les gens, mais on va prendre 2 333 calories. Et ça va être peut-être pareil. On va pas faire une bonne nuit, mais on va avoir trois phases.
Donc c'est un changement aussi là, vraiment dans les comportements, dans la façon dont on traite d'un sujet comme le soleil.
Il faut tout de même peut-être vérifier et pas uniquement se limiter à la technologie.
Marc Giraud.
Moi je suis partagé entre la fascination pour le progrès. Je ne sais pas où il veut aller, parce que pour moi, améliorer le sommeil, c'est quand même d'abord pour les insomniaques. Donc voilà, ça, je ne sais pas.
Pas seulement.
Quand même, c'est eux à qui ça servirait le plus.
Oui.
Et je suis partagé entre ça et quand même le retour à la sagesse de la nature. Il y a des gens qui font des respirations, de la méditation et qui dorment très bien comme ça. Ah, donc si c'est un objet d'étude, je comprends. Voilà.
Vous roupillez, vous, la nuit, dans la nature pour étudier vos petites bestioles?
Non, je respire très calmement. Et c'est, oui, c'est une base de sérénité. Moi, je parle de baladothérapie, mais la nature, c'est une base de sérénité.
Quentin Soulet, alors qu'est-ce que vous répondez aux questions, aux questionnements de nos invités?
Alors, il faudra le prendre dans l'ordre. Sur la question de l'insomnie et le but, encore une fois, aujourd'hui, n'est pas de faire un dispositif médical. C'est pour des questions réglementaires, on ne peut pas dire qu'on traite l'insomnie. C'est un objectif qu'on a à terme sur d'aller attaquer aussi les pathologies du sommeil, qui sont d'ailleurs beaucoup plus larges que l'insomnie, qui est un type de pathologie du sommeil, il y en a beaucoup. Sur le fait d'être utile uniquement aux insomniaques, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de pathologie déclarée du sommeil, mais qui ont un sommeil de mauvaise qualité. C'est plus d'une personne sur trois qui se plaint de son sommeil, et les personnes qui vont consulter un médecin et qui sont déclarées comme insomniaques, c'est assez variable selon la définition qu'on donne dans l'insomnie, mais c'est autour de 5%.
Et alors sur l'aspect un peu gadget, parce qu'on comprenait que Marc Giraud trouvait ça un objet pas forcément utile, alors qu'il y a d'autres techniques peut-être moins coûteuses aussi d'ailleurs.
Alors d'autres techniques, il y en a évidemment. Sur la méditation, c'est des choses qui marchent aussi. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont des contraintes sur leur sommeil, soit parce qu'ils dorment peu à cause de leur travail, soit parce que même s'ils ont le temps de dormir et dorment finalement pas bien, c'est pas des choses qui marchent à tous les coups. Mais évidemment, on va pas contre les conseils de bon sens, à savoir se coucher à heure fixe, ne pas regarder d'écran avant de se coucher.
C'est quand dans le commerce, a priori, ce bandeau, Quentin Soulet, parce que là, c'est encore en voie de développement?
Oui, alors on va commencer par une version bêta, par commercialiser une version bêta, donc à environ 500 personnes entre la France et les États-Unis. Ça va être dans le courant de l'année. Mm-hmm. On ne peut pas donner de date très précise, mais ça sera vers le milieu de l'année 2016, un peu avant. Et après, on a une version grand public qui arrive et donc qui sera dans le courant de l'année 2017.
Très bien. Mais pour ceux qui souhaitent en savoir plus, en tout cas sur cette innovation qui a été d'ailleurs saluée, vous avez reçu de très nombreux prix déjà. Oui. Grand prix de l'innovation 2014 de la ville de Paris, le prix Jean-Louis Gérondeau de Polytechnique. Vous avez été lauréat du concours mondial d'innovation dans deux catégories, médecine individualisée et Big Data. Et puis donc la vidéo TEDx pour en savoir plus, elle est en lien sur le site de la Tête au Carré. Le dico des métiers de demain, c'est avec vous. Anne-Caroline Pocot, dans un instant.
Quand vient la nuit de dimanche à lundi, je m'occupe, je trace des axes de symétrie. Je fais ça sur mon lit depuis tout petit. J'avais le choix, mais j'ai décidé noir. J'en couvre les parois de mes nuits blanches ivoires. Je ne dors toujours pas, je ne dors toujours pas. Et demain est là, derrière le rideau. La nuit sera immense. Par dépit, j'y ai lu résidence. Pourquoi demain est toujours en avant? Pas vu venir l'avalanche. La nuit sera immense. Par dépit, j'y ai lu résidence. Pourquoi demain est toujours en avance? Comment ai-je pas vu venir l'avalanche? J'ai pas fini voyage au bout de l'ennui. Trop occupé à rêver à mardi. Les mardis passés et celui qui suit. J'ai fait le choix, j'aurai des idées noires. J'en couvre les parois de mes nuits blanches ivoires. Je ne dors toujours pas, je ne dors toujours pas. Et demain est là, derrière le rideau. La nuit sera immense. Par dépit, j'y ai lu résidence. Pourquoi demain est toujours en avance? Comment ai-je pas vu venir l'avalanche?
Open bar toute la nuit, ambiance de folie, toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Se laisse réfléchir.
Et dans notre club, il y a Anne-Caroline Poco, écrivain prospectiviste. Vous aussi, vous inventez un métier, finalement. C'est ça. Oui. Hein. J'ai l'impression que ça fonctionne toujours dans votre tête. Hein. Dès que vous entendez quelque chose, ah, vous dites, tiens, ça peut faire l'objet d'un néologisme.
Bah, c'est le principe, oui.
Ouais, mais ça se voit, votre attitude. C'est marrant. Vous êtes très attentive et je vous vois noter des choses. Vous êtes spécialisée dans la création d'outils, donc, pour réfléchir à demain et donc ce dico des métiers de demain aux éditions Les Propulseurs. L'idée, justement, c'est quoi? C'est de réfléchir à ces futurs métiers et d'imaginer tout simplement comment ils seront nommés et voir s'ils existent déjà d'ailleurs un petit peu quand même. Hein.
Le principe, c'est de regarder un petit peu les innovations existantes, les pratiques, les expérimentations, qui sont un peu comme un tableau pointilliste, qui sont en train de dessiner le futur. Ouais. Et donc, à partir de ça, dire, tiens, voilà, là, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, on va le nommer. Ouais. Parce que quand on nomme les choses, ils commencent à exister.
C'est un futur proche, a priori, qui vous intéresse,
hein? Le futur, c'est dans 30 secondes ou bien dans 10 ou 20 ans. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne sait pas. Ouais. Donc, ça ne sert à rien de donner des informations. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations où on a l'impression qu'elles vont démarrer, qu'elles vont changer tout. Et puis, en fait, pour l'instant... Bah...
C'est ça, ouais. Pourtant, ce que l'on sait, c'est qu'apparemment, selon les chiffres, 65% des écoliers d'aujourd'hui pratiqueront, une fois diplômés, des métiers qui n'ont même pas encore été inventés aujourd'hui.
Eh ben oui. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, la question la plus... stupide que les parents peuvent poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire tout plus tard?
Au moins, dans quel secteur tu souhaites travailler?
Après, peut-être les inciter à inventer leur métier. Alors c'est un peu
ça,
l'idée.
C'est ça.
L'idée du dico des métiers de demain, c'est ouais. de dire, il y a plein de possibles aujourd'hui, ouais. donc vous pouvez aller chercher. Vous pouvez imaginer, créer, métisser.
Donc vous redonnez plein d'espoir au fond, hein, dans cette situation quand même de l'emploi qui est très compliquée. Vous dites, ben, y a des choses à inventer soi-même aussi. Hein.
Et puis mettre un petit peu la poésie dans le domaine de l'emploi. Ouais. Parce que là, on a plutôt, dans le domaine de l'emploi, on a plutôt des robots qui sont des méchants robots qui vont voler notre travail. Mmh. On a plutôt des perspectives assez noires. Ouais. Donc pourquoi pas changer un petit peu de donne et puis imaginer les choses.
Ça marche auprès des plus jeunes quand Alors, vous les rencontrez, quand vous leur dites, ben, inventez-moi votre futur métier
très,
demain.
Très bien, ils ouais. adorent. C'est parce vrai. Qu'en fait, inventer des mots, c'est une pratique que tout le monde peut faire. Ouais. C'est-à-dire, c'est simple. Et puis, il faut inventer des mots de bonne qualité ouais. aussi. Ça, c'est compliqué.
Ils vous sortent des choses amusantes
Oui, ouais. oui. Par exemple, ah oui, il y a eu beaucoup de choses. Là, dernièrement, ils ont inventé aussi l'enverdeur.
L'enverdeur.
L'enverdeur au moment de la COP21.
Ah, j'en ai entendu parler.
C'est vrai.
Les chasseurs, très souvent, les écologistes d'enverdeur, oui.
Et alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors,
c'est un intégriste de l'écologie.
C'est l'enverdeur de tourner en rond, quoi.
Oui,
c'est ça.
Ouais. C'est plutôt amusant.
Ouais. Donc sans arrêt, en fait, voilà, vous les ouais. stimulez ouais. et il y a des choses qui ressortent. Quentin Soulet, c'est ça aussi l'idée, hein, c'est ce que vous faites, c'est d'inventer, au fond, c'est prendre les devants. Et on voit que quand on a des audaces et des initiatives, ça fonctionne plutôt pas mal, non, en général?
Ouais, c'est sûr. Mais c'est une des choses qui est bien dans le parcours qu'on a suivi, c'est qu'on nous a toujours poussé à aller en pampier. Il y a même un des cours de notre programme qui était, il y avait des chercheurs qui venaient avec leurs
idées. À Polytechnique, hein.
Polytechnique, tout ouais. à fait. Il y avait des chercheurs qui venaient avec leurs idées. Le but était de créer une entreprise à partir des idées de ces chercheurs-là. Ouais. Donc, c'est pas dans ce cadre-là que Dream a été créé, enfin Rhizome maintenant. Mais c'est sûr que aller de l'avant, aller chercher ce qui se passe. Bon, moi de mon côté, c'est plutôt du côté scientifique, mais il y a énormément de choses qui se passent dans le laboratoire.
Et puis au fond, c'est le meilleur moyen de trouver du boulot, quoi. C'est de le créer soi-même.
Et hein, c'est trouver du boulot, d'en créer. Oui, tout à fait.
Absolument. Anne-Caroline, justement, Poco, vous avez 7 grandes familles d'emplois dans ce livre, 7 catégories.
Hein. Bah, il y a des grandes tendances d'évolution. Ouais. Le numérique, c'est évident. Il y a plein de nouveaux métiers. La santé aujourd'hui est en train de vraiment bouger, donc c'est des nouveaux métiers. Bien entendu, l'environnement, et puis aussi le côté, l'ADN du partage, tout ce qui entraîne la consommation collaborative, tout ce genre de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui sont en train d'émerger.
Ouais. Donc, vous dessinez le monde de demain. Alors, évidemment, il faut qu'on donne des exemples tout de suite. Qu'est-ce que c'est, par exemple, dans le domaine numérique, le gomme-netin, par exemple, on en aura peut-être besoin d'ailleurs pour s'occuper de toutes les données là, qui seront engendrées par le bandeau.
Alors, le principe du gomme-netin, c'est des effacer les données numériques indésirables. Ouais. En général, j'ai une insomnie, je me pense un génie, il est 4h du matin, je raconte une bêtise, et puis, ben voilà, il faut le supprimer pour pas que ça me colle à la peau.
Mais ça pourrait faire l'objet de métier, vraiment.
Ah ben, pour l'instant, ça commence.
Avec la masse de données qu'on a.
Il y a des entreprises qui commencent en train de travailler là-dessus.
Ouais. Alors, il y a toujours, d'ailleurs, dans ce que vous proposez, dans ces néologismes, il y a toujours un petit encart, c'est déjà demain, parce qu'on voit que vous pouvez puisez bien vos inventions, vos créations de mots dans une réalité. Hein.
Ben oui.
Et c'est le cas évidemment pour ce gomme-netin. Qu'est-ce que c'est qu'un funébriste selon vous alors ?
Il y a des métiers qui sont en train totalement de se transformer. Donc là, le funébriste, c'est juste l'enterrement de la vie virtuelle. C'est-à-dire quand on décède, il y a d'une part la vie réelle, il y a des habitudes. Et puis au niveau de la vie virtuelle, qu'est-ce qu'on fait du Facebook? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Est-ce qu'elles sont transmises? Et il y a tout de même toute une réflexion à mettre en place.
Ouais.
Alors, à préparer aussi, faire un testament numérique.
Et c'est vrai qu'il y a des métiers d'avenir qui collent au phénomène de société aussi. Écoutons l'extrait du documentaire Digital Detox qui avait été publié, enfin qui était sorti dans l'émission Trax sur Arte.
Selfies, réseaux sociaux, applis à toutes les sauces, les dealers digitaux ne manquent pas de ressources. Le smartphone greffé dans la paume, les web addicts se shootent à la 4G. Les psychologues ont même inventé un terme pour ces malades du réseau, la nomophobia, la peur de se retrouver sans téléphone mobile. Heureusement, les Amy Winehouse au forfait illimité ont désormais leur centre de rehab. Sur la côte ouest des États-Unis, les Digital Detox, ces colonies de vacances pour adultes trop connectés, poussent comme des champignons. Au programme, décrocher de son smartphone pendant une semaine.
Tu n'as pas besoin d'être tout le temps connecté. Et c'est comme un jeu. Tu peux te dire, est-ce que je vais m'en soucier? Est-ce que je vais avoir ce tic? Est-ce que je vais sentir cette vibration dans ma poche alors qu'il n'y a même pas de vibration? C'est comme une vibration fantôme. Comme ces amputés qui continuent à sentir un membre fantôme.
Oh là là, Anne-Caroline Poco. Alors, le nomophobe.
C'est ce phénomène qui vous a inspiré. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi plus le numéropathe. Qui va traiter toutes les addictions au numérique. Entre autres, par exemple, la zombicuité. La zombicuité, c'est en fait l'échange avec quelqu'un qui, on peut échanger juste uniquement avec des gens qui sont à distance.
Ouais.
Donc, les personnes. Alors, ça, par exemple, c'est quelque chose qui frappe beaucoup les adolescents aujourd'hui. Mmh. Il faut, à un moment donné, ils peuvent pas discuter avec leurs parents dans la pièce. Par contre, ils peuvent très, très bien échanger avec leurs copains loin. Ouais. Donc, ça, c'est la zombicuité. Donc, les numéropathes vont peut-être les aider à se réconcilier et de pouvoir de nouveau être
rentrer en contact avec leurs proches réels. Hein, c'est ça. Quel drôle de monde, Marc Giraud, quand même. Hein.
Oui. Mais en fait, il y a deux sortes de métiers futurs. Ceux de Quentin qui sont complètement dans l'électronique et des choses qui m'échappent complètement parce qu'il est d'une autre génération. Moi, je suis jeune depuis plus longtemps que lui. Et puis, il y a tout ce qui est l'environnement et qui est aussi des métiers futurs. Vous parlez d'enverdeur et vous faites la jonction entre ces deux univers, en fait.
Ah, dans l'alimentation, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le bouchétarien.
Ah, bah ouais.
Bah voilà, par exemple.
Le boucher végétarien.
Oui.
Qui fabrique de la viande. Ça a l'odeur de la viande, ça a la forme de la viande, mais il n'y a pas de viande.
Le boucher.
Et paraît-il qu'il y en a.
Ah oui.
Il y a des restaurants, en tout cas.
Ouais. Hein, oui, bien sûr. Il y a des saveurs, les herbes, les épices, c'est végétarien.
Hein. Oui. L'ergonome.
Alors ça, c'est...
L'énergonome.
Vous avez vu, je dépense tout de même pas mal d'énergie, là. Oui. À parler, à raconter des histoires et tout. Je pense que je pourrais alimenter peut-être, je sais pas quoi, alimenter le micro ou bien quelque chose comme ça. En fait, c'est le récupérateur de l'énergie humaine.
Ah oui, ça existe déjà d'ailleurs, hein.
Tout à fait. Mais tout existe déjà.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression que ça n'existe pas, et puis au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que tout existe.
C'est ça. Déjà. Et vous, vous avez eu la bonne idée de compiler tout ça et d'en proposer quand même de
nouveaux. J'ai déjà un quart d'heure de retard.
Mais oui, pas tellement, parce que comme nous, on découvre beaucoup ces nouveaux mots grâce à vous, Anne-Caroline Poco. Et vous travaillez donc sur le dico du futur de l'amour pour bientôt. Vous avez lancé un projet collaboratif autour de ça, d'ailleurs.
Tout à fait. Ouais. Sur dicodufuturdelamour.com. Et là, tout le monde, je propose tous les jours un nouveau mot. Ouais. Et donc, chacun contribue, donne son avis.
Bon, écoutez, en attendant donc les éditions Les Propulseurs, alors donc, on va sur Internet pour se procurer le livre.
Oui, parce que, en fait, il faut actualiser ces livres. Mmh. Là, ils sont tout de suite obsolètes. Ouais. Donc, pour pouvoir actualiser, dans l'édition traditionnelle, c'est extrêmement difficile.
Donc c'est bien. On a toujours la dernière édition la plus fraîche. Voilà. Dico, des métiers demain. Vous restez avec nous dans un instant. Marc Giraud, avec ses histoires de morpions, mais pas seulement.
The man is gone and mama says she can't live without him. The man is gone and mama says there is no life without him. She has no one to stop her tears, a man who heals and calms down her fears. She needs to wake up in her man's arms and to be loved just like a child. The man is gone and mama says that she can't live without him. The man is gone, mama says there is no life without him.
Elle s'appelle IBI avec Mama 16 dans notre club des Têtes au Carré où nous a rejoint Marc Giraud, naturaliste de terrain, journaliste, écrivain en zoologie avec l'illustrateur Roland Garrigue. Vous publiez La vie rêvée des morpions, autre histoire de parasites chez Delachaux et Nestlé. Alors les morpions, c'est la tête de gondole de votre livre.
Voilà, c'est le titre un peu accrocheur.
C'est
mais
ça, oui,
bon,
c'est
mon
le cas
métier,
de le dire,
c'est de chercher les petites bêtes, je cherche les poules,
voilà,
je cherche tout.
Bien sûr. Qu'est-ce que ça représente les parasites dans le domaine du vivant?
Eh bien, c'est ça qui est extraordinaire et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, c'est que bien plus de la moitié des espèces vivantes, tout confondu, sont des parasites.
Ouais.
Certains disent 4 fois plus, d'autres 10 fois plus.
Ouais.
Et les autres, c'est les parasités. Mmh. Et on n'est pas les derniers, on est très concernés par
c'est
tout ça.
C'est ça, les humains, on est très parasités.
Ah bah oui. Les parasites eux-mêmes peuvent se faire parasiter par des hyper-parasites. Enfin, toutes les niches sont prises.
Ouais. C'est ça. Alors, ça va de la petite bête à la grosse bête, quand même. Parce qu'on peut imaginer le coucou qui fait partie des parasites.
Ah oui, c'est un parasite, absolument.
Il y a même des requins parasites.
Oui, il y a un requin, en fait, qui est tout petit, qui s'appelle le squalolet féroce.
Ouais.
Il ne mange qu'en attrapant un petit bout de chair sur d'autres poissons.
C'est ça.
Voilà, ou sur des baleines. Quelquefois, il attrape le sonar d'un d'un sous-marin, enfin voilà, et c'est un parasite, puisque ouais. la définition de parasite, c'est un peu pique-assiette, c'est profiter d'un autre être vivant, de s'en servir comme abri ou comme nourriture.
Ouais. Et ça sert à quoi, du point de vue de l'écosystème, en fait, un parasite?
Mais ça peut être utile, justement, parce qu'en fait, c'est très compliqué, la notion de parasite. Quelquefois, on pense qu'un animal parasite l'autre, c'est-à-dire qu'il profite sans rien donner en échange,
c'est ça.
Et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il y a quand même un échange. Et ça fait toute la vie, nous-mêmes, on est remplis d'anciens parasites qui nous sont devenus utiles, toute notre flore intestinale par exemple, dans nos cellules, les mitochondries, ce sont d'anciens parasites qui sont devenus des alliés. Et finalement, cette espèce de loi de la jungle qu'on a reproché à Darwin, mais en fait c'était pas tout à fait ça, devient une entraide assez générale. Le parasitisme, ça ne peut être qu'une ça peut être juste provisoire en fait.
Oui. Donc il faut aussi les protéger d'une certaine manière. C'est un petit peu le message sous-jacent à ce livre.
Oui, oui, parce que ça peut être utile. Toutes ces espèces qui disparaissent avec leurs parasites.
Oui.
Et ils peuvent être utiles à la science d'ailleurs. On peut trouver des oui. médicaments, des protéines, des molécules, des tas de choses intéressantes dans les parasites.
Oui. Enfin, je pense qu'un morpion, j'allais vous dire, un morpion Marc Giraud, à part nous emmerder quand même de temps en temps.
Voilà, c'est ça. Alors quand ça nous gêne, on n'aime pas. Quoi. Ça, c'est normal. Et puis on est une espèce comme les autres, on a le droit de se protéger des autres espèces. Hein.
C'est ça.
On est d'accord.
Donc on est d'accord que le morpion ne sert absolument à rien.
Alors, il y a quelqu'un qui disait une mauvaise herbe, c'est une herbe dont on n'a pas connu encore les vertus. Peut-être que le morpion a une utilité, et peut-être une utilité sociale.
Ah oui, laquelle?
On peut pas savoir. Bah, alors les poux, on s'épouille, par exemple. Bon, voilà. On sait pas encore, mais ça peut avoir une utilité. Les parasites ont transformé notre aspect, parce que si on a perdu nos poils, c'est peut-être par la sélection naturelle et par la sélection sexuelle où les mâles les plus attirants étaient les plus dénués de parasites, donc de poils,
oui.
et avec la sélection sexuelle, celle-là, les plus séduisants sont devenus de plus en plus nus, et donc on a la peau nue, peut-être à cause des parasites ou grâce aux parasites, comme vous voulez.
Écoutons l'extrait d'une émission, une parodie qui s'appelle « Fais pas le sorcier ».
Tout d'abord, il y a la reine. Bien installée au chaud près du puits à l'arrière du campement, c'est la reproductrice. Elle peut enfanter environ 631 morpionnets tous les 27 jours. Viennent ensuite les chasseurs. Ce sont eux qui ramènent la nourriture à la cressonnière, c'est dire si leur rôle est vital. Et enfin, les explorateurs. Ce sont eux qui vont de motte en motte pour découvrir de nouvelles terres. Et fouette, ils sont capables de forer des micro-perforations dans un slip, mais également pour les plus forts, dans un jeans.
Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde des parasites? C'est absolument affreux, Marc Giraud. Hein,
ah oui, parce que les parasites, c'est diabolique vu de l'extérieur, mais ils peuvent manipuler leur hôte. Ils peuvent changer son sexe, par exemple.
Ah oui.
Il y a une bactérie qui s'appelle Wolbachia, qui parasite 60% des insectes quand même, qui ne se transmet que par les femelles. Donc, elle fait des mâles, des transsexuels, et comme ça, il y a plus de femelles partout. Ou les femelles non infectées, elles font en sorte qu'elles puissent pas se reproduire, pour pouvoir ne se reproduire que par des insectes infectés. Enfin, vraiment, ça bogue le cerveau.
Ouais.
Il y en a qui poussent. La bactérie de la toxoplasmose, par exemple, ouais. A besoin de terminer dans un félin. Et pour ça, il passe par un rongeur, un rat, par ouais. exemple, et il lui bogue le cerveau, il le manipule, il prend les commandes.
Incroyable.
Et il lui fait confondre l'odeur du prédateur avec une odeur sexuelle du partenaire.
Donc le rat va se jeter dans la gueule du chat, par exemple.
Le rat se précipite dans la gueule du chat, et là, ouais. paf, le rat.
Pas Flora, exactement.
Il y en a plus.
Ouais. Mais c'est incroyable parce que ça, donc, c'est le parasite qui a besoin de terminer dans le chat et
oui.
qui passe par le rat pour voilà. accomplir son boulot.
Voilà, il transmet des substances neuroactives et il y en ouais. a plein des histoires de suicides comme ça, de grillons qui se plonge à l'eau alors qu'ils se noient,
oui,
parce qu'ils ont à l'intérieur d'eux un ver qui les a manipulés, qui a pris les commandes de leur cerveau, c'est
et
vraiment ça.
Et qui rend dingue l'animal.
Et ça fait partie des histoires les plus extraordinaires d'animaux que je connaisse. Et il y a peu de littérature là-dessus. Il y a Claude Combe qui a fait quelques ouvrages, mais il y a très peu de choses, alors que c'est plus de la moitié des êtres vivants. Il devrait y avoir plus de la moitié des livres sur les animaux qui seraient consacrés aux parasites.
Ouais. Anne-Caroline Pocot, il faut nous faire un dico des parasites, là, quand même.
Et à l'intérieur de notre cerveau, on a des parasites?
Ah, on en est truffé, mais ils sont pas forcément. Enfin, on est truffé d'animaux, pardon, ou d'organismes, mais ouais. pas forcément parasites.
Et ils prennent pas les commandes forcément,
oui.
heureusement.
Non, ah, non, non.
Mais
non,
parfois, dans certaines pathologies, on peut.
Oui, oui, oui. Alors, on a fait des études sur les accidents de voiture où justement, il y aurait peut-être un soupçon de parasitisme.
Quentin Soulet, du point de vue des neurosciences, vous avez eu.
On a une très bonne barrière entre le sang et le cerveau qui, en général, empêche justement les infections. Ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, quand ça arrive, c'est. Ça peut être très grave, mais ouais. On a le cerveau est assez protégé contre les parasites et les infections.
Bon, bah, merci de nous avoir rassurés. Oui. Au moins,
mais dans les ordinateurs, il y a des virus. Hein, oui. Même l'électronique n'est pas.
Oui. Alors, ce que vous racontez, Marc Giraud, au sujet des morpions, ça c'est assez amusant, c'est qu'en fait, dans le monde animal, seuls les êtres humains et les gorilles ont la chance d'avoir des morpions.
Oui, parce qu'on est les deux seuls à pouvoir se vanter d'avoir des morpions, les gorilles et nous, parce qu'en fait, nos ancêtres communs, notre ancêtre commun, pardon, avait des parasites, et on suit l'évolution d'un animal en parallèle avec celle de ses parasites. Et les poux de nos ancêtres, ils se sont séparés, les morpions, ils se sont séparés il y a 3 millions d'années. De l'ancêtre de l'homme et de gorille.
Et de gorille, ouais.
Mais ce qu'il y a d'étrange, c'est que nos ancêtres à nous se sont séparés avant les parasites. C'est-à-dire qu'on a continué à échanger nos parasites. Les futurs hommes et les futurs gorilles continuent à sans doute partager leur litière, on imagine, ouais. et ça a terminé en parasites très différents.
Ouais, ouais. Mais alors ça, c'est quand même très étonnant comme histoire. C'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais un chimpanzé, par exemple, avec des morpions.
Non, il survit pas. Il survit pas. Il y a beaucoup de parasites qui sont inféodés à une seule espèce.
L'oiseau mafieux. Alors ça, c'est quoi? C'est le coucou justement. Hein,
c'est le coucouget. C'est un oiseau. Oui, coucouget. C'est une sorte de coucou. Coucou,
oui. Il est gonflé lui quand même. Hein.
Oui, parce que alors lui, le petit, la femelle pond dans le nid en général des pies, un ou deux œufs.
Oui.
Mais le petit reste avec les autres. Il ne les éjecte pas comme le coucou gris. Mmh. En revanche, si jamais les parents s'avisaient de ne pas nourrir le petit parasite ou de l'éjecter, il y a les parents qui surveillent, les parents coucougeaient. Et si jamais les parasités osaient se débarrasser du parasite, alors là, ils feraient une descente comme des...
Ah ouais.
Oui, comme des mafieux, quoi.
Ouais. Alors, faut signaler les dessins de votre camarade Roland Garry, hein, qui sont
ils sont irrésistibles.
Oui, très, très drôles. D'ailleurs, il y a une collection hein, chez Delasso et Nestlé, parce que vous aviez sorti Safari dans la bouse.
Dans la bouse. Oui, j'aime bien me pencher sur les choses que les gens regardent pas. Parce
le monde
que c'est
des
vraiment...
coprophages.
Oui, et ça aussi, il y a peu de livres là-dessus, alors que c'est passionnant.
C'est vrai. Alors, une femelle du ver intestinal, par exemple, je sais pas si vous l'avez dit, l'Ascaris, hein, peut prendre jusqu'à 200 000 œufs par jour. Ça fait 64 millions au cours de son existence adulte.
Ça fait beaucoup. Bah oui, parce que on lâche ça. Les parasites lâchent ça dans la nature et il y a une perte énorme. Ils se rencontrent pas parce que souvent les parasites ont plusieurs hôtes. Ça commence dans un escargot, ça continue dans une fourmi, ça termine dans le foie d'un mouton. Donc les chances ou les risques de survie sont tellement minimes qu'il faut des millions et des millions de descendants pour qu'il y en ait quelques-uns qui survivent.
Ouais. Ah oui, il y a le ver solitaire aussi. Ça, c'est la bête aux 630 000 sexes.
Oui, oui. Oui,
ça c'est pas un coup de l'amour, justement. Écoutez
oui,
bien,
parce
Karine,
qu'on dit toujours que la baleine est le plus long animal avec ses plus de 30 mètres, mais le ver solitaire de la baleine est bien plus long, il fait 50 mètres. Et pour se reproduire, les vers solitaires, c'est des petits segments dans lesquels il y a des testicules et des ovaires, parce que c'est hermaphrodite. Alors, il y a que deux sexes, mâle et femelle, mais en revanche, si on compte tous les segments, il y a 630 000 sexes, donc beaucoup, beaucoup de chances de pouvoir se reproduire.
Oui, ça c'est vraiment très impressionnant. Voilà, il y a plein de petites histoires comme ça, très amusantes, et puis on rit beaucoup, donc il faut absolument se procurer ce livre qui s'appelle « La vie rêvée des morpions » et autres histoires de parasites que vous signez Marc Giraud dans la collection « L'amour est dans le pré » avec Roland Garrigue. L'humour est dans le pré, pardon. Merci beaucoup Anne-Caroline Pocou d'être venue avec votre dico des métiers de demain, et puis Quentin Soulet, longue vie à votre bandeau qui, j'espère, nous fera vraiment bien dormir.
Merci.
Puisque c'en est la promesse. On retrouve toutes ces infos, bien sûr, sur le site de la Tête au Carré.